La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h.
Au programme du club de la tête au carré ce vendredi, des épices aux vertus thérapeutiques, des révolutions scientifiques, des biohackers et une étude sur la meilleure façon de dire bonjour. Je vous présente les invités de ce club dans un instant. Bonjour Axel Villard.
Bonjour du coup.
À la une de la science aujourd'hui, Encelade, la petite lune glacée de Saturne qui, de plus en plus, attire les regards des exobiologistes.
Oui, puisqu'avec son océan souterrain, ses geysers de glace et maintenant la découverte de grosses molécules organiques, les chercheurs ont très très envie d'aller y chercher la vie. On en discute avec l'astrochimiste Hervé Cottin.
Nous sommes en direct, vous pouvez réagir sur Twitter avec le mot-clé « L'attaque ». Cette émission est réalisée par Fanny Bohuon, elle a été préparée par Thomas Lehété et Lucie Sarfati.
La tête au carré. Le club avec Daniel Fievé sur France Inter.
Invité du club de la tête au carré, l'ethnopharmacologue Jacques Florentin, la journaliste scientifique Fabienne Chauvière et les trois apprentis reporters Léa Nani, Julie Derriac et Corentin Duval. Bonjour et bienvenue à tous les cinq.
Bonjour.
Jacques Florentin, spécialiste des plantes médicinales, vous êtes l'un des commissaires de l'exposition La fabuleuse Odyssée des épices, actuellement proposée au château de la Roche-Jagut dans les Côtes d'Armor. L'exposition présente les différents usages des épices pour la parfumerie, l'alimentation, mais aussi pour la médecine. Et c'est surtout ce sujet en tant qu'ethnopharmacologue que vous connaissez bien. On peut se soigner avec les épices?
Oui, alors d'abord, bien sûr, ces épices, quand on les regarde dans les échoppes traditionnelles, elles charment les yeux. Quand on commence à les respirer, bien, elles stimulent les nerfs olfactifs. Ensuite, elles flattent les papilles. Quand on les met dans la nourriture, bien, elles agrémentent les mets, les repas. Donc, c'est tout le côté, je dirais, culinaire agréable. Mais elles ont des propriétés préventives et curatives. D'abord, elles vont stimuler toutes les fonctions de l'organisme. Donc, stimule l'appétit, stimule les fonctions du foie, donc un peu détox, stimule aussi les fonctions gastriques pour aider à digérer, etc.
On va en savoir plus dans la suite de cette émission. Ne nous dites pas tout de suite. Autour de la table, une voix que les auditeurs de France Inter connaissent bien, Fabienne Chauvière. Nous connaissions Les Saventuriers, l'émission, Les Saventuriers, la chronique. Voici maintenant Les Saventuriers, le livre, la grande épopée, les grandes épopées qui ont fait la science, le meilleur des Saventuriers. C'est une coédition Flammarion France Inter. L'idée, c'est vraiment de faire raconter les grandes découvertes des sciences modernes à celles et ceux qui participent à ces aventures.
Oui, mon idée au départ, c'était, je voulais en savoir plus sur les grands sujets d'actualité, les neurosciences, la génétique. Alors, on connaît l'actualité de ces sujets, mais on n'en connaît pas toujours la genèse. Alors, j'ai demandé à de grands chercheurs de me raconter l'histoire de leur discipline. Tous ceux que j'ai sollicités ont dit oui. Ouais. Axel Kahn, Cédric Villani, Valérie Masson-Delmotte, Marilène Patou-Matisse, Laurent Cohen. Et ça donne quelque chose de pas mal. Je suis assez contente.
C'est un vrai régal à lire. Et puis Axel Villard, suite et fin de la série de reportages initiée il y a 2 semaines, nous allons découvrir les 2 derniers reportages réalisés par les étudiants de l'université Paris Diderot que vous avez encadrés.
Oui, on va commencer avec Corentin Duval qui va nous faire découvrir l'univers des biohackers. Et avec Léa Nani et Julie Derriac, qu'on ira apprendre à dire bonjour de la manière la plus convaincante possible.
Voilà pour le sommaire et les auditeurs peuvent participer et réagir via la page de l'émission sur France Inter ou sur la page Facebook de la Tête au Carré. La lune Encelade, superstar de l'exobiologie, est aujourd'hui à la une de la science.
Cette minuscule boule de glace de seulement 500 km de diamètre, c'est Encelade. Ces images nous font découvrir une surface blanche miroitante très différente de celle des autres lunes de Saturne. Elle est recouverte de crevasses et d'étranges et imposantes failles descendant vers le pôle sud se détachent en bleu. Longue de 120 km et profonde de plusieurs centaines de mètres, elle présente de troublantes similitudes avec les lignes de failles terrestres.
Des molécules organiques organiques complexes viennent d'être détectés par la sonde Cassini autour d'Encelade, un faisceau d'indices qui ne cesse de grandir depuis 5 ans et qui fait penser aux chercheurs qu'Encelade réunit les conditions propices à l'apparition de la vie. Si la vie existe ailleurs dans le système solaire et en l'état des connaissances, c'est bien sûr Encelade qu'on a le plus de chances de la trouver. Alors Axel, pour comprendre l'impact de cette découverte, on accueille notre invité.
Oui Daniel, on est en studio avec Hervé Cottin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrochimiste, professeur à l'université Paris-Est-Créteil, membre du laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques et pour terminer, vice-président de l'Association française d'exobiologie. Ça fait beaucoup de casquettes.
Oui, jolie carte de visite.
Hervé Cottin, on commence avec Encelade à être un peu habitué, hein, puisqu'à chaque publication, c'est une occasion de rêver en plus. Ces molécules organiques, là, ces grosses molécules, c'est une découverte importante.
C'est vrai qu'Encelade, c'est un peu la pochette surprise autour de Saturne. On ne s'attendait pas du tout avec la sonde Cassini qui est arrivée en 2004 et qui a exploré les mondes, les lunes autour de Saturne. On ne s'attendait pas du tout à trouver des choses intéressantes. C'est une petite boule de glace de 500 km de diamètre. On imaginait qu'elle était complètement inerte et inintéressante. Et en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a une activité géologique, des geysers, qu'on aperçoit, il y a des images, on voit ces geysers, c'est assez fascinant, qui sont projetés depuis la surface. Donc c'est des petites particules de glace, et ces particules de glace, on n'arrive pas à expliquer leur projection, si ce n'est que par la présence d'un océan d'eau à l'état liquide sous la surface. Alors il fait à peu près moins de 200 degrés à la surface d'Encelade, mais c'est l'une des particularités de l'eau. Quand on plonge à l'intérieur de la glace, quand la pression augmente, on peut se retrouver dans des situations où l'eau peut être à l'état liquide. Donc il faut imaginer Encelade comme étant une couche de glace, une couche d'eau à l'état liquide et ensuite un corps rocheux avec probablement une activité interne.
Ces molécules organiques qui sont captées là par la sonde Cassini, c'est ces geysers qui nous permettent de les récupérer. Est-ce que on peut expliquer un peu mieux ce que c'est? Parce que molécules organiques, souvent, ça fait penser à la vie, mais à chaque fois, vous nous dites non, ce n'est pas la vie.
Non, il y a plein. Une molécule organique, c'est une molécule qui est construite à partir du carbone. Donc le carbone, c'est un élément qui est très abondant dans l'univers. Donc il y a plein de choses qui sont à partir du carbone, qui n'ont rien à voir avec la vie. Et c'est vrai que le mot chimie organique, matière organique, molécule organique, organique, allez, quand on n'a pas fait beaucoup de chimie, on glisse vers organisme, et puis là, ça y est, on a les yeux qui étincellent, on pense à la vie. Non, la vie, effectivement, pour l'instant, c'est très singulier, on en a détecté sur Terre, on est là pour en parler. Du carbone, il y en a partout. Par contre, on se dit que si la vie est apparue ailleurs que sur la Terre, il est possible, probable, que comme sur la Terre, elle ait utilisé ce matériau de base à partir du carbone pour apparaître. Mais voilà.
Donc la présence de ces molécules organiques, c'est une condition nécessaire, mais pas forcément suffisante à l'apparition de la vie?
Tout à fait. On pense que pour que la vie apparaisse, il faut de l'eau à l'état liquide. L'eau, c'est banal, quasiment rien de plus banal dans l'univers que l'eau. Mais l'eau à l'état liquide, c'est vraiment rare. Il y en a sur Terre et maintenant on sait qu'il y en a sous Encelade, il y en a sous la surface d'Europe, un satellite de Jupiter, il y en a eu sur Mars. Donc voilà, on se dit, on a peut-être raison de chercher là. Ouais. Ensuite, il faut de la matière organique, donc ces structures basées sur le carbone. Et il faut de l'énergie. Et l'énergie, là, on pense qu'elle est aussi présente parce que pour qu'il y ait ces pulvérisations, ces geysers qui propulsent cette matière dans l'espace, bah, il faut une source d'énergie interne. On pense à des sources hydrothermales au fond des océans d'Encelade. On pense à des mouvements de compression, de dilatation de la banquise et une énergie qui propulserait. Et ce qui est particulier et intéressant, c'est que là, à l'heure actuelle, on n'imagine pas comment on pourrait creuser 10 km de profondeur de glace.
Là, parce que l'épaisseur de couche de glace au-dessus de cet océan, c'est 10 km.
10 ou plus.
Ça fait quand même...
Ça fait beaucoup. Ouais. Et à cette température, la glace, c'est pas la glace que vous sortez de votre congélateur. C'est dur comme du marbre. Enfin, c'est quelque chose qui est très, 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 très compliqué. Et là, on aurait des échantillons qui, naturellement, proviendraient de l'intérieur et serait propulsé. Et là, on a vu, même si Cassini n'était pas vraiment prévu pour ça... La sonde Cassini, effectivement, merci, a récupéré ces petites particules qui ont été collectées dans un instrument. Et la vitesse de collecte qui est assez, assez importante, d'une dizaine de kilomètres par seconde, en fait, réduit en miettes ces particules et c'est analysé par un instrument qui s'appelle un spectromètre de masse, qui est une espèce de balance moléculaire. Et on se dit, bah tiens, telle masse, ça veut dire qu'il y a du carbone. Ah là, telle masse, ça veut dire qu'il y a plusieurs atomes de carbone, il y a aussi de l'hydrogène. Et donc comme ça, on est en mesure de reconstruire un peu la carte d'identité moléculaire de ce qui est présent.
Axel. On l'a dit en introduction, Encelade, c'est un peu la superstar de l'exobiologie. Est-ce que pour vous, c'est vrai, c'est l'endroit chaud où il faut chercher, ou en tout cas essayer de trouver la vie?
C'est l'un des endroits. Il y a Mars. Mars pour voir s'il y a eu de la vie qui est apparue dans le passé. Et donc, on va chercher des fossiles.
Donc, sur Mars, ce sont des fossiles. Alors que sur Encelade, on peut imaginer de la présence de vie encore en vie.
On peut imaginer beaucoup de choses. Mais c'est effectivement, on part de striptique au liquide, matière organique, énergie. Et on a un espèce de postulat. Ce n'est pas démontré. C'est ça qu'il faut garder en tête. Il n'y a rien de démontré. Mais en tout cas, on se dit, ça ne serait pas idiot d'imaginer que si ces conditions sont réunies, la vie peut apparaître sans en être sûr. Pour en être sûr, au lieu de se contenter d'en parler, faut aller explorer. Et là, ça serait un des endroits dans le système solaire où ça serait sans doute le plus accessible parce que c'est projeté.
Sauf que pour... Ah oui, parce que c'est projeté. Parce que pour creuser, par contre, on n'ira pas. Hein, les forêts, les 10 kilomètres de...
C'est pas dans l'immédiat. Ouais. Europe aussi a des caractéristiques similaires. C'est beaucoup plus gros. Il y a aussi des jets qui sont observés, mais on a beaucoup plus de mal à comprendre leur origine. Encelade, ça semble le plus simple, en sachant que quand je dis simple, c'est loin d'être évident.
Merci Hervé Cottin d'être venu nous faire rêver. Et merci Axel Villard. Prochaine Une de la Science dans 2 mois. Et mais oui, vous restez encore un petit peu avec nous pour accompagner vos étudiants reporters.
À tout à l'heure.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, un grand pas pour la médecine de précision. Des chercheurs de l'université de Hong Kong ont mis au point un micro-robot capable de délivrer des molécules à des endroits très localisés de l'organisme en utilisant des aimants pour guider le robot. Leur premier essai sur un rat de laboratoire a été très concluant. L'utilisation d'une telle technologie pour délivrer des médicaments à une partie spécifique du corps plutôt que dans tout l'organisme permettrait d'éviter bon nombre d'effets secondaires non désirés. Les chercheurs pensent commencer les essais cliniques d'ici les 5 années à venir. Après un voyage de 3,5 années, la sonde japonaise Hayabusa 2 va enfin pouvoir se poser sur l'astéroïde Ryugu. Une opération difficile qui sera réalisée en partie par le Centre National d'Études Spatiales, le CNES, qui a participé à l'élaboration de cette sonde. Si l'atterrissage et la collecte d'échantillons sont réussis, la sonde aura ensuite pour mission de les rapporter sur Terre en 2020. Leur étude pourrait nous en apprendre plus sur le processus de formation des planètes ainsi que sur les premiers millions d'années de notre système solaire. Et pour terminer, peut-on faire le rapprochement entre jeux vidéo et jeux d'argent? Dans l'éditorial de la revue Addiction, des chercheurs dénoncent le système, selon eux pervers, des boutiques en ligne intégrées dans les jeux vidéo. En dépensant de petites sommes régulièrement pour avoir de nouveaux bonus en jeu, les joueurs développent un comportement dépensier connu des joueurs pathologiques de casino qui se traduit par d'importants coûts financiers à long terme. Cette recherche fait suite à l'annonce de l'OMS qui a récemment confirmé le caractère addictif de certains jeux vidéo. Odyssée des épices, épopée scientifique et reportage étudiant au programme du Club de la Tête au Carré dans un instant.
Presque ses lèvres sur le boulevard où s'étaient allongées les stars. Chaque vertèbre sur le béton, on connaîtrait enfin son nom. Presque célèbre dans les faubourgs, les gens croient encore en l'amour et au sourire de tapis rouge, aux soirées où personne ne bouge. Sur Hollywood espoir, sur Hollywood hasard, sur Hollywood bizarre, Hollywood boulevard, sur Hollywood espoir. Sous les flashs, frigorifié un soir de mars. Encore assez, un peu de cash. Elle pourra se faire une place. Elle est venue là pour rêver. Mais quand elle monte les escaliers, devant les écrans de papier, elle voudrait une vie à aimer. Sur Hollywood espoir. Sa mère voudrait un vrai métier. Pourtant elle est au bon endroit. Les anges se donnent rendez-vous là. Sur Hollywood espoir. Sur Hollywood hasard.
Hollywood Bizarre, c'était Holidays sur France Inter.
La tête au carré, Daniel Fievé.
Autour de la table du club de la tête au carré, la journaliste scientifique Fabienne Chauvière, trois étudiants en journalisme, Léa Nanni, Julie Derriac et Corentin Duval, et Jacques Florentin, ethnopharmacologue, spécialiste des plantes médicinales. Il est l'un des commissaires de la très belle exposition La Fabuleuse Odyssée des Épices, actuellement présentée au château de la Roche-Jagut dans les Côtes d'Armor.
De cette région de Calicut, appelée l'Inde supérieure, viennent les épices que l'on consomme en Occident et dans le Levant, ainsi qu'au Portugal, et même dans tous les pays du monde. Cette même ville produit beaucoup de gingembre, de poivre et de cannelle. Les nefs de la Mecque chargent les épices qu'elles transportent à une ville de la Mecque appelée Jeddah. Là, ils déchargent et ils paient ses droits au grand sultan. Puis ils embarquent leur cargaison sur des navires plus petits et la transportent par la mer Rouge jusqu'à un endroit situé près du mont Sinaï. Et ils y paient encore un autre droit. Là, ces marchands chargent les épices sur des chameaux qu'ils louent pour 4 cruzados par chameau. Et ils les transportent au Caire en 10 jours. Ils y paient un autre droit. Ils sont souvent sur la route du Caire, attaqués par des voleurs. Ils les chargent de nouveau sur des chameaux et les amènent en un jour à une ville appelée Alexandrie, qui est un port de mer. C'est dans cette ville d'Alexandrie que les galères de Venise et de Gênes viennent chercher ces épices qui, à ce qu'on estime, rapportent au grand sultan 600 000 cruzados de droit.
Extrait du journal d'un navigateur, extrait du recueil « Ces terres inconnues » qui rassemble les journaux de bord des navigateurs entre le 15e et le 19e siècle. Jacques Florentin, l'exposition « La fabuleuse odyssée des épices » retrace justement l'histoire de ces routes des épices et leur usage depuis l'Antiquité. Alors pourquoi les épices intéressent-elles tant les hommes et depuis si longtemps ?
Alors ça a toujours été un enjeu stratégique, économique et géopolitique parce que toutes les grandes civilisations ont cherché à obtenir ces épices et ces aromates. Ça a commencé avec l'Égypte pharaonique à la recherche de l'encens et de la myrrhe, ouais, qui servait donc à embaumer les momies. Mais ensuite, il y a eu toutes ces grandes voies de commerce, d'abord terrestres, ensuite maritimes. Ça a commencé avec la route de la soie, qui démarre à Xi'an, et qui ensuite traverse le désert de Gobi, la Mongolie, l'Afghanistan, arrivé jusqu'en Europe. Ça a été ensuite, alors ça a démarré 1800 avant Jésus-Christ, mais l'époque commerciale, c'est à partir de la chrétienté, où là, ça s'est très développé. Ensuite, il y a eu la route de l'encens. Donc, on a eu une des voies, mais qui est celle du 15e, 16e siècle. Mais avant, il y avait une route de l'encens qui partait du Yémen, ouais, et qui emmenait aussi l'encens, la myrrhe et puis les épices indiennes par terre, c'est-à-dire la Mecque. Enfin, ça traversait le Yémen, ça allait ensuite à la Mecque. Ça arrivait à Petra, en Jordanie, à Gaza, et là, c'était exporté vers l'Europe. Et après, il y a eu petit à petit les explorations maritimes. Et alors, en fait, c'est à la chute de Constantinople, au XVe siècle, que les voies terrestres étaient quasiment bouchées. Et donc, il a fallu que les Européens trouvent d'autres voies maritimes.
Il a fallu ouvrir des voies. C'est là que Vasco de Gama et bien d'autres ensuite ont cherché comment, par les océans, regagner ces lieux, l'Inde, la Chine, où on trouvait ces épices.
Exactement. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les Portugais et les Espagnols s'étaient coupés la planète en deux, si je puis dire. Ils avaient une ligne verticale dans l'océan Atlantique. Du côté ouest, c'était pour les Espagnols, et du côté est, c'était pour les Portugais. Ce qui fait que ce sont les Portugais qui ont été les premiers à contourner l'Afrique, passer le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, ensuite remonter vers l'Inde et s'octroyer le monopole du commerce des épices asiatiques.
C'est incroyable quand on y pense que les épices soient le moteur de toutes ces conquêtes. Alors, c'est pour le meilleur et pour le pire, hein, parce que parfois ce sont des échanges commerciaux ou des rencontres culturelles, parfois ce sont des conflits, des guerres que les épices déclenchent.
Oui, mais il y a toujours eu deux objectifs, l'or et les épices. Et n'oubliez pas que l'encens et la myrrhe qui viennent de l'Arabie avaient été apportés par le roi mage à l'enfant Jésus. Hein. C'était donc déjà une valeur sûre à l'époque, dans toute la chrétienté.
Alors, on en cite quelques-unes. Poivre d'Inde, cannelle de Ceylan, curcuma, cardamome. Alors tout de suite, c'est évocateur, effectivement. On voyage rien qu'en évoquant ces épices. Mais c'est quoi le point commun de tous ces ingrédients? C'est quoi la définition d'une épice, au fond?
Alors, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire ça va apporter un goût, une odeur, améliorer les mets de tous les jours. Et comme c'était rare et cher, c'était fortement prisé. Ouais. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans ces voies commerciales, ceux qui essayaient d'avoir le monopole de ce commerce-là faisaient tout pour éviter que ce soit pillé. Mmh. Alors il y a eu donc les Portugais qui avaient dominé le commerce au 15e, à partir du 17e siècle, ça a été les Hollandais. Et là, c'était terrible, parce que vous parliez de deux épices importantes, la girofle et la noix de muscade. Les deux-là sont produites que dans les petites îles Moluques. Ouais. Et les Hollandais avaient maintenu le monopole dans ces territoires-là. Les gens qui commerçaient les graines étaient punis de mort.
Ah oui.
Et pour conserver les cours des matières premières, ils détruisaient les excédents, ils brûlaient les plantes sur les îles qui n'étaient pas réservées à cette production-là, mais c'était inouï la manière dont ils se comportaient pour garder les prix et le monopole de ces épices.
Alors, on l'a compris, intérêt culinaire, intérêt pour la parfumerie aussi, et intérêt médical. Alors vous, vous êtes ethnopharmacologue, vous êtes un spécialiste justement des vertus thérapeutiques des plantes. Quelles sont les vertus médicinales des épices?
Alors, le plus important, c'est des plantes qui vont produire des huiles essentielles. Chacun connaît le clou de girofle. Ouais. Quand on a une carie, on met un clou de girofle dans la dent, carié. Mais en fait, quand on extrait l'huile essentielle, on a là des produits extrêmement puissants. Et le giroflier est celui qui va fournir une des huiles essentielles les plus puissantes au point de vue antibactérien, antiviral. Donc là, c'est déjà un atout considérable. Ouais. On a ensuite la cannelle, deuxième plante, deuxième écorce, qui lorsqu'elle est distillée fournit aussi une huile essentielle extrêmement puissante dans toutes les infections, qu'elles soient bronchopulmonaires, qu'elles soient intestinales, y compris une activité antivirale. Donc on a déjà dans l'activité antimicrobienne des plantes de référence.
Oui. Alors il y a aussi la badiane de Chine, aussi appelée l'anis étoilé. Oui. Quelles vertus on lui prête?
Alors cette badiane de Chine, elle est surtout digestive.
Oui.
Mais chez nous en Alsace et en Lorraine, on a l'habitude de boire des vins chauds. Et cette badiane de Chine, qui est médicinale et un épice, avait été frelatée par une badiane du Japon qui est neurotoxique. Et donc il y a des gens qui ont convulsé.
Ah oui.
Et pendant 5 ans, cette badiane n'était plus disponible.
D'accord, oui, donc c'est à double tranchant.
Double tranchant.
Vertu thérapeutique, on peut aussi s'empoisonner si on ne sait pas trop s'y retrouver.
Voilà, mais c'est pour ça que dans le domaine du médicament, on n'a plus affaire à des épices, on a affaire à une plante médicinale.
Ouais.
Et on a des références à la pharmacopée européenne pour que le pharmacien qui commande effectivement ces épices médicinales ait des matières premières de qualité.
Un autre exemple, le gingembre. C'est une épice, le gingembre?
Il rentre dans les épices aussi.
C'est un peu flou, hein, les frontières de ce que sont les épices.
Oui, c'est un peu flou, mais le gingembre en fait vraiment partie. Alors là aussi, c'est une racine qui nous vient d'Asie et qui est extrêmement intéressante. D'abord, elle est anti-inflammatoire, mais surtout anti-vomitive.
Ouais.
Et on a expliqué le mécanisme d'action. Ça marchait très bien sur les nausées de la grossesse, sur les nausées de la chimiothérapie, sur le mal des transports, c'est parfait.
Ouais.
Et on peut même l'administrer chez les femmes enceintes, vous voyez, pendant les 3 premiers mois.
Et le côté aphrodisiaque que l'on entend parfois, c'est pas vrai,
il est tout à fait dedans. D'ailleurs, la plupart de ces épices ont un usage traditionnel aphrodisiaque, mais pour certaines, c'était vérifié, notamment le gingembre. On a effectivement des taux de copulation qui sont augmentés chez les rats quand on teste ce gingembre. C'est démontré.
Ah oui, c'est, en tout cas chez les rats. Oui. Allez, une toute dernière, le curcuma, rapidement.
Oui, alors le curcuma, là aussi, c'est un des ingrédients majeurs du curry. Et il a beaucoup de propriétés, anti-inflammatoires, digestifs, baisse le taux de cholestérol, des triglycérides. Donc c'est très intéressant comme épice. Mais surtout, j'ai trouvé dans la littérature beaucoup de publications dans des tests qui sont faits, non pas chez l'homme, mais en préclinique, hein, c'est-à-dire chez l'animal, sous des cultures cellulaires. Un effet préventif vis-à-vis de développement du cancer à tous les stades, extrêmement intéressant. Donc on n'a pas de preuves chez l'homme, mais le fait de penser que les Indiens mangent du curcuma tous les jours, ça explique peut-être aussi les prévalences moindres de cancer des voies digestives que l'on trouve en Inde.
Ouais, des pistes intéressantes à suivre. L'exposition s'intitule « La fabuleuse odyssée des épices ». Elle est présentée jusqu'au 30 septembre prochain au château de la Roche-Jagut, dans les Côtes-d'Armor.
Oui, et on a une collaboration exceptionnelle avec Metz et les Côtes-d'Armor, puisque ça fait la deuxième fois qu'on travaille avec eux pour cette exposition. Je vous incite vraiment à y aller. Le parc, il fait 64 hectares, est exceptionnel, et l'exposition aussi.
Et le catalogue également paru aux éditions Ouest France. On peut même gratter et sentir des odeurs d'épices. Merci Jacques Florentin. Après l'Odyssée, les grandes épopées qui ont fait la science dans le club de la tête au carré.
She could get menacing, frightening, find help. Sometimes I scare myself. She could get menacing, frightening, find help. Sometimes I scare myself. Tweaking off that 2CB, huh? Is he gonna make it TBD, huh? Thought I was gonna run DMC, huh? I done died and lived again on DMT, huh? See, this the type of high that won't come down. This the type of high that get you gunned down. Easy trolling OD, huh? Turn TMZ to smack DVD, huh? Russell Simmons wanna pray for me too. I'ma pray for him cause he got me too. Thinking what if that happened to me too? Then I'm on E News. She could get menacing, frightening, find help. Sometimes I scare myself. She could get menacing, frightening. Find help. Sometimes I scare myself. Hey, hospital been 100 bands, fuck a watch. 100 grand and make your best friends turn to ops. I hear y'all bringing my name up a notch. Guess I just turned the cloud game up a notch. See, y'all really shocked, but I'm really not. You know how many girls I took to the titty shop? If she get the ass with it, that's a 50 pop. I still bring the bad bitches in the city, yeah. Just a different type of leader. We could be in North Korea. I could smoke a Wiz Khalifa, Told my wife I never seen her after I hit it by Felicia. That's the way that I'ma leave it up. Menacing.
See, this is why all the bitches fuck with you. Fuck what they talk about.
Sometimes I scare myself.
They take me on myself, mass, off mass, ask yourself.
Shit could get menacing, frightening.
Ask your homegirl right now. Look, you had a shot at
ya. Sometimes I scare myself.
Tweaking
off that 2CB, huh? This is why your bitches fuck with me, huh? Smash, she gon' end up on TV, huh? Last thing that you ever wanna see, huh? I can feel the spirits all around me. I think Prince and Mike is tryna warn me. They know I got demons all on me. Devil been tryna make an army. They been strategizing the army. They don't know they dealing with a zombie. Niggas been trying to test my Gandhi. Just because I'm dressed like Abercrombie. You see? That's what I'm talking about. That's why I fuck with Ye. See, that's my third person. That's my bipolar shit, nigga. What? That's my superpower, nigga. Ain't no disability. I'm a superhero. Yeah!
C'était Yax, Kenny Waits sur France Inter.
La tête au carré, le club sur France Inter.
Le club des têtes au carré avec l'ethnopharmacologue Jacques Florentin, les trois étudiants en journalisme scientifique Léa Nani, Julie Derriac et Corentin Duval et Fabienne Chauvière, bien connue des auditeurs de France Inter qui auront le plaisir de retrouver votre émission Les Saventuriers tous les week-ends cet été, le samedi et le dimanche de 17h à 18h avec ce fabuleux générique.
Le doute, c'est pratiquement ce qu'on sait faire de plus beau.
Il y a tellement de diversité, tellement d'intelligence.
La matière et ses atomes.
C'est le moment où véritablement quelque chose a lieu.
Et ce procédé devait mener à la séparation du chlorure de radium.
Néandertal était différent, et pourtant si proche d'Homo sapiens.
Voilà qui est prometteur, Fabienne Chauvière.
Alors, j'espère que ça donne envie.
Ah ben ça donne envie. Et pour ceux qui ne seront pas là ou qui ne peuvent pas attendre, les 16 émissions sont déjà podcastables.
Mais pourquoi vous en avez zappé deux? Il y en a 18.
C'est ça, 18 émissions sont déjà podcastables. Parce que sur certaines, ce sont deux fois le même invité peut-être. Sur
une fois,
la première,
oui,
c'est Axel Kahn. La première, c'est Axel Kahn. Donc je me suis emmêlé les pinceaux.
Non, mais pardon.
Et puis il y a aussi le livre. Le livre, hein, il y a cet ouvrage, Les grandes épopées qui ont fait la science, Le meilleur des saventuriers. Coédité par Flammarion et France Inter. Vous avez donc invité tous ces grands scientifiques à raconter les grandes avancées, les grandes découvertes qui ont révolutionné leur domaine de recherche. Ce sont vraiment des récits, ce ne sont pas des interviews. Vous teniez à cette forme de récit, Fabienne.
Alors, je leur ai dit, à Axel Kahn, j'ai dit, c'est tonton Axel qui raconte. À Cédric Villani, j'ai dit, tonton Cédric raconte. En fait, l'idée, c'était de leur demander de raconter leur discipline, mais aussi la genèse de leur discipline. Alors, j'avais fait une espèce de plan assez détaillé, qu'on avait vu et revu ensemble. Et puis après, je leur ai dit, mais je vais vous lancer, mais j'enlèverai toutes mes questions. Je veux qu'à l'antenne, ça fasse un récit, comme des histoires. Et puis, il y a des archives qui émaillent ces histoires, qui sont de vraies histoires, mais qui s'écoutent comme des contes, pratiquement. Ouais. Et je trouve que le résultat n'est pas si mal.
Mais on n'en doute pas une seconde. Alors, comment vous avez choisi les scientifiques et comment vous avez choisi les domaines? Parce que c'est très varié. Hein. Là encore, on embrasse le champ des sciences.
Alors, les domaines, je me suis dit, qu'est-ce qui est très intéressant aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut savoir aujourd'hui quand on s'intéresse un peu aux sciences? La génétique, c'est un sujet incontournable, vous êtes d'accord. Les neurosciences, c'est un sujet incontournable. Le climat, c'est un sujet incontournable avec la météo, ça va ensemble. L'infiniment grand, on s'approche du Big Bang, on est à 400 000 ans du Big Bang, c'était un sujet incontournable. L'infiniment petit, la physique quantique, alors ça fait peur la physique quantique, mais c'est un sujet aussi incontournable. Les origines de l'homme, vous voulez que je m'arrête, mais j'ai envie de continuer.
Mais non, mais j'ai envie qu'on les développe un tout petit peu. Vous parliez justement de la physique quantique. C'est vrai que vous n'avez pas eu peur d'aborder ces sujets qui parfois effraient un peu le grand public, qui paraissent très ardus à vulgariser. Et non, vous y allez avec Julien Bobrov pour
mais
la physique quantique.
En fait, tout dépend des scientifiques que vous sollicitez. Julien Bobrov, quand il raconte la physique quantique, mais vous devenez amoureux de la physique quantique. Ouais. Ça devient passionnant, parce qu'il y a un côté mystérieux qu'il raconte très très bien. Il détaille ce sujet qui est bourré de promesses. Il vous raconte que dans quelques années, peut-être qu'on aura des tables qui léviteront parce qu'on aura maîtrisé la supraconductivité. Il raconte que les LED bleus, c'est grâce à la physique quantique. Et puis, il raconte aussi l'histoire et la genèse de la physique quantique. Ça a débuté à la fin du 19e siècle. Il y a eu une première révolution dans les années 20. Et puis là, on est en train de vivre une deuxième révolution. Quantique. Dans les laboratoires du monde entier, on prépare les ordinateurs du futur qui seront peut-être quantiques, en tout cas en partie quantiques. Mais c'est formidable la physique quantique parce que c'est totalement contre-intuitif. C'est ce monde de l'infiniment petit.
Où rien ne se passe comme dans notre monde à notre échelle.
Quand on a l'impression que deux atomes peuvent se retrouver en même temps, vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Et ben, c'est ça la physique quantique.
Autre domaine dans lequel les conceptions des scientifiques ont beaucoup évolué au cours des dernières décennies, les origines de l'homme et en particulier le regard sur l'homme de Néandertal. C'est vraiment une réhabilitation qu'on est en train de vivre depuis une dizaine d'années de ce cousin.
Voilà, alors ça c'est Marie-Hélène Patoumatis qui raconte ça. Marie-Hélène Patoumatis, c'est une chercheuse extraordinaire, très investie, fabuleuse, brillante, très très cultivée, qui connaît son sujet sur le bout des doigts. Et puis je peux dire aussi qu'elle a un look de chanteuse de rock. Alors c'est assez marrant, quand elle parle de Néandertal, Néandertal, elle est pour elle, Néandertal, c'est un cousin. Et plus les recherches sur Néandertal avancent, et plus on a l'impression qu'il est proche de nous. Il avait des pensées métaphysiques. On a retrouvé dans une grotte, la grotte de Bruniquel, en 1990, si ma mémoire est bonne, des espèces de constructions qui sont vieilles de plus de 176 000 ans. Mmh. Et c'était apparemment parce qu'il avait des pensées métaphysiques, ouais. Et il pensait à l'au-delà, il enterrait ses morts, il faisait des bijoux.
Et beaucoup plus proche que nous, hein, que ce qu'on pensait. Et puis il y a aussi les neurosciences. Alors on a à peine le temps de l'évoquer, mais là aussi c'est en plein boom, les neurosciences.
Ben on est en plein dedans. Et ça, c'est grâce à l'imagerie. Jusque dans les années 80, jusque dans les années 70, ce qu'on savait du cerveau, il fallait ouvrir les crânes pour voir ce qui se passait à l'intérieur. Depuis 1975, je crois, il y a eu le scanner. Et puis après, dans les années 80, est apparu l'IRM. Ensuite est apparu l'IRM fonctionnel. Et l'IRM fonctionnel, ça permet de voir le cerveau quasiment penser. Vous mettez des gens dans une machine et puis vous leur dites « levez le bras ». Et puis là, on voit dans le cerveau des petites zones qui s'illuminent. C'est complètement merveilleux.
Oui, c'est complètement merveilleux. Pour en savoir plus, les auditeurs pourront écouter donc ces entretiens tout l'été, le samedi et le dimanche à 17h. Pour les impatients, toutes les émissions sont d'ores et déjà podcastables en avant-première sur le site de France Inter, franceinter.fr. Et puis il y a ce livre, Les grandes épopées qui ont fait la science, le meilleur des aventuriers, coédition Flammarion, France Inter. Vous restez avec nous, Fabienne Chauvière, vous allez nous donner votre avis sur les reportages des étudiants en journalisme scientifique que nous allons découvrir dans un instant.
Je suis impatiente.
Je laisse les traces de mon passage sur tout ce que j'effleure avec mon maquillage. Apocalyptique. Apocalyptique. Sur toutes les anatomies, ma bouche se dessine en décalcomanie. Apocalyptique. 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 Tout ce que j'aime et que je touche, du bout des lèvres garde l'empreinte de ma apocalyptique. Apocalyptique. Rouge de vamp ou de vampire, c'est avec ce crayon que s'inscrit mon délire. Apocalyptique. 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 Apocalyptique.
C'était Apocalyptique, Jane Birkin sur France Inter. La programmation musicale est signée Thierry Dupin dans le club de la tête au carré en compagnie de l'ethnopharmacologue Jacques Florentin, la journaliste scientifique Fabienne Chauvière et Axel Villard. Nous allons donc découvrir les derniers reportages de trois nouveaux étudiants de l'université Paris Diderot que vous avez encadrés cette année.
Oui, on va commencer avec Corentin. Corentin Duval qui a fait un sujet sur les biohackers. C'est peut-être un des étudiants qui a le plus mis de temps à trouver son sujet. Et finalement, il a mis les pieds dans un univers vraiment passionnant. C'est comme ça que tu l'as vécu, Corentin ?
Oui, j'ai eu du mal à trouver un petit peu ce sujet, mais c'est vrai.
Allez, on fait encore un peu durer le suspense, on va voir ce que c'est que ce sujet dans un instant avec vous, Corentin. Quel rapport vous aviez avec la radio et avec le son ? Est-ce que vous êtes un auditeur ?
Alors, je ne suis pas vraiment un auditeur de la radio, mais par contre, je suis très familier avec l'univers du son, parce que je suis musicien, donc je suis à l'aise avec le montage, avec le mixage, et j'ai déjà fait un petit peu de radio, donc... J'étais un petit peu à l'aise avec tout ça.
Dans votre élément. Donc vous avez choisi de vous intéresser aux biohackers et on écoute tout de suite votre reportage.
Impact Factor.
Publication scientifique.
Propriété industrielle.
Le laboratoire.
Brevet.
Vous avez remarqué, il y a beaucoup de codes et d'impératifs dans la recherche scientifique, qu'elle soit académique ou industrielle.
Depuis 2000, le milieu scientifique institutionnel s'est pris une bonne soufflante. Il est apparu des gens voulant faire de la science autrement, en dehors des institutions. C'est le mouvement Do It Yourself Biology, en français, biologie participative. J'ai rencontré Marc Fournier, cofondateur de la PAIAS, un laboratoire citoyen et collaboratif.
Alors les sciences participatives en général et la biologie participative en particulier, c'est l'idée qu'on peut tous opérer une réflexion et devenir citoyen dans cette approche-là. Quand il s'agit de produire des connaissances scientifiques, évidemment il y a tout un tas d'institutions qui font ça de manière très intéressante et très efficace. Aujourd'hui, si certaines personnes se positionnent en disant qu'il est intéressant de se réapproprier un certain nombre de connaissances et de contenus, c'est avant tout sur une démarche personnelle, c'est-à-dire d'apprentissage, une démarche où on a envie de revendiquer quelque chose parfois aussi. C'est inspiré d'un mouvement plus général et mondial qui s'appelle le Do It Yourself Biology, qui prône justement la réappropriation des sciences du vivant par le citoyen.
En fait, la PAIAS, c'est ce qu'on pourrait appeler un biohacker space.
Mathias est un ancien cracker, un pirate du web repenti.
Moi, les pirates que j'ai rencontrés à la PAIAS, ils ne ressemblaient pas du tout à ça. Beaucoup de choses se cachent sous le terme biohacker. Quelques-uns vont essayer de modifier leur corps avec des régimes drastiques ou bien en éditant leur ADN, et d'autres vont même jusqu'à s'implanter des aimants dans les doigts. Le suffixe « hacker » a cette idée de détournement, de réappropriation. Le hacker vise l'accessibilité, le partage de la connaissance et des outils scientifiques. Pendant mon enquête, je me suis intéressé au biohacking, en pensant que j'allais tomber sur des gens qui faisaient subir des trucs insensés à leur corps. Et si le biohacking, ce n'était pas que du sensationnalisme ? J'ai rencontré Ewan Chardronnet, journaliste à Makery, un média qui connaît bien ce mouvement de biohacker et d'open biology.
Pour moi, il y a différents niveaux, on pourrait dire, dans le biohacker. Il y a à la fois ceux qui vont pratiquer de la biologie, voire de la génomique ou de la thérapie génique aux États-Unis, qui est une pratique sur eux-mêmes. On parle de biohacking pour cela, mais il y a aussi des biohackers qui vont développer des choses beaucoup plus autour de la question environnementale, détection polluants, pathogènes ou allergènes, etc. Donc il y a plusieurs niveaux, parce que parfois c'est connoté avec certains biohackers héros qui aiment beaucoup faire du média et de devenir des célébrités dans le milieu, mais parce qu'ils pratiquent des choses qui posent des questions éthiques.
Je me suis rendu à la Gaîté Lyrique, au festival Open Source Body, organisé entre autres par Ewen. J'ai pu rencontrer des gens qui hackaient le matériel médical, parfois trop cher ou pas adapté. On écoute Delphine de l'association My Human Kit. Je lui ai demandé sa définition du biohacking.
Donc c'est par exemple électrifier un fauteuil roulant à base d'une trottinette électrique. Donc on récupère l'avant de la trottinette, le moteur, et on vient le plugger sur un fauteuil manuel de manière à ce qu'on puisse l'enlever et le remettre facilement. Le projet du Human Lab est parti de l'aventure de Nicolas Huchet, donc, qui est un des fondateurs de l'association My Human Kit, qui lui-même est amputé de la main. Et qui a donc développé une prothèse imprimée en 3D bionique.
Transformer un moteur de drone en centrifugeuse ou bien créer un microscope avec une webcam, c'est les actions de biohacking que j'ai pu voir dans ce festival. Moi, ce que j'aime bien dans ce mouvement, c'est son idée de base. Détourner l'usage d'un objet pour le mettre au service de la science et des autres. Et ça, sans logique financière agressive. La science accessible à tous, pour tous. Alors, demain tous pirates.
Voilà pour ces premiers pas radiophoniques, Corentin Duval. Vous semblez pas du tout inquiet hein, par ce mouvement de biohacking. Pour vous, c'est un peu un avenir qui s'offre à nous et qui semble prometteur.
Alors, je dirais que c'est un mouvement qui est assez ambigu, en fait, dans le sens où il y a certaines personnes qui vont faire des choses un petit peu bizarres à leur corps en se mettant des substances, en s'ingérant des substances. Il y a d'autres personnes qui vont se mettre, par exemple, des puces électroniques dans les doigts ou pour payer donc, avec leurs mains. Et il y a aussi tout un mouvement qui est assez optimiste de personnes qui vont faire qui vont hacker le matériel médical. Donc tout un mouvement de partage et d'open source qui va permettre
Fabienne Chauvière, qu'est-ce que vous avez pensé ? Alors là, c'est l'oreille de la professionnelle de la radio hein, que l'on voit tout de suite.
J'y vais. Ouais. J'ai trouvé que la forme était vraiment bien. Cette façon de raconter et puis d'amener l'auditeur à la rencontre de la personne qu'on allait interviewer, de la présenter. J'ai eu du mal à rentrer dans le sujet, en revanche. J'ai trouvé que, au début, c'était un peu diffus, c'était mal défini. Puis j'ai commencé à m'y intéresser à partir du moment où j'ai eu ce cas concret de ce fauteuil roulant qu'on électrifiait avec le moteur de la trottinette électrique. J'ai trouvé qu'on rentrait pas directement dans le sujet. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage.
Non, on a l'impression de voilà faire un peu la nouvelle star du reportage. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est vrai que le début, c'est assez compliqué de mettre des termes sur ce mouvement de biohacking parce qu'il est assez mal défini, puis très récent en fait. Donc je suis parti en fait d'une définition qui est assez complexe pour essayer de recentrer le sujet et pour essayer de faire comprendre en fait ce que c'est un petit peu ce mouvement.
Moi j'aurais mis des exemples tout de suite, plein d'exemples.
Partir sur du concret, partir oui. sur un exemple. Oui. Jacques Florentin, vous, qu'est-ce que vous pensez de... Alors, moi, je trouve qu'il y a un grand écart entre votre domaine où vous allez justement à la rencontre des peuples autochtones, des traditions dans chaque pays pour avoir un petit peu ces plantes médicinales. Non. Puis là, on est dans un autre gîte.
Non, pas du tout, parce qu'on a la biopiraterie. Donc, ça consiste à aller sur le terrain, récupérer des plantes médicinales à intérêt thérapeutique et puis d'en extraire les gènes et de faire des brevets. Mmh. Donc, nous, on réfléchit sur ce domaine-là depuis 20 ans à la Société française d'ethnopharmacologie et l'idée, c'est recenser partout dans le monde, publier. À partir du moment où c'est publié, où c'est écrit, ce n'est plus brevetable. Et l'idée ensuite, c'est de faire du partage de ces connaissances-là au niveau des populations, refaire l'enseignement et puis faire de la santé durable en cultivant ces plantes et en faisant ce qu'on appelle des médicaments traditionnels améliorés sans brevet.
D'accord. Allez, nous allons maintenant écouter le reportage de Léa Nani et Julie Derriac. Léa et Julie, bonjour.
Bonjour. Non mais Léa, ça va pas là, t'es trop stressée, ton bonjour est trop stressé. Bonjour.
Bonjour. Bon, le mieux c'est peut-être qu'on lance le reportage.
Bonjour.
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 Comment faire bonne impression en disant bonjour?
Bonjour.
Ah. Attends, mais j'ai trouvé. Les chercheurs à l'IRCAM ont craqué le code d'un bonjour digne de confiance.
Bonjour.
À l'IRCAM? Mais oui, tu sais, l'Institut de recherche en acoustique et musique à Paris.
Ah ouais, bon ben on y va alors. Allez, c'est parti.
Oula, c'est silencieux ici.
Bah ouais, on est à lire calme.
Super.
Moi, je suis Jean-Julien Couturier, je suis chercheur CNRS, ici, à l'unité mixte de recherche hébergée à l'IRCAM.
Alors, il paraît que c'est ici que vous avez le meilleur bonjour.
Alors, on a effectivement quelqu'un ou quelque chose qui s'appelle CLIS. En fait, vous allez être déçus, hein. C'est pas quelqu'un que vous pouvez rencontrer. CLIS, c'est un logiciel, en fait.
Un logiciel? Alors, du coup, c'est quoi le projet?
Le projet qui finance ces travaux s'appelle CRIM, comme le groupe de Eric Clapton, comme la crème, qui est l'acronyme de craquer le code émotionnel de la musique en anglais. Le logiciel CLIS utilise une technologie qui s'appelle le vocodeur de phase, qui permet de changer soit la hauteur, donc l'aspect grave ou aigu, soit la longueur d'un son, sans changer l'autre de ses dimensions.
Ah ouais, c'est comme avec les vinyles quand on fait tourner lentement et que ça devient plus grave. When lights close the tire. Et puis quand on accélère, ça devient plus aigu.
Donc ça, c'est très facile à faire, mais en l'occurrence, après les bonjours comme ça, absolument pas intéressant pour nous.
Ah ouais.
Et donc nous, on veut au contraire, quand on parle, si on fait plus haut, on fait pas plus vite. Enfin, on est capable de manipuler ces deux dimensions indépendamment.
Bon, et du coup, on peut écouter ce que ça donne?
Ça, tu l'as pas normalisé en pitch, en fait.
Non, c'est la phrase initiale qui est pas normalisée.
Et si tu fais du pitch aléatoire, ça donne quoi?
Bonjour.
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 Ah, c'est quand même très très robotique comme voix.
Ouais, c'est vrai.
Le temps est le même, quoi. Il n'y a que le pitch qui
ouais, bouge. Et là, c'est découpé en six fenêtres, six fenêtres temporelles. Emmanuel Ponceau, je suis chercheur postdoctoral au laboratoire des systèmes perceptifs de l'École normale supérieure.
Bonjour Emmanuel. Comment est-ce que vous craquez le code émotionnel de la musique?
On a utilisé un son qu'on a enregistré sur un participant qu'on va découper en petites fenêtres temporelles. Et chacune de ces petites fenêtres temporelles, on va bouger la hauteur, l'intonation de façon aléatoire. En pratique, les participants dans l'expérience, donc ils venaient au laboratoire et pendant une heure, ils entendaient ces bonjours-là par paire. Et ils devaient indiquer dans la paire lequel était prononcé de façon la plus dominante socialement et qui était le plus digne de confiance.
Et avec tous ces résultats, vous avez trouvé quoi?
Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, toutes les personnes avaient la même représentation.
Vraiment tout le monde?
Il y a une sorte de prototype commun à tout le monde, mais qu'il y a aussi certaines personnes qui s'écartent de ce code. Et donc ça ouvre un champ de recherche qui est plus en recherche clinique, notamment dans des pathologies comme la dépression, l'autisme ou la schizophrénie. On constate que les patients ont un problème pour décoder cette information d'intonation. Là, on a un outil pour aller se poser des questions sur l'origine de ces déficiences.
Bon, finalement, on n'a pas vraiment trouvé comment dire le meilleur bonjour, mais je suis sûre d'une chose, c'est que je préfère le tien.
Ouais, mais lequel ?
Bonjour !
Bonjour !
Bonjour !
Bonjour !
Oh bonjour !
Bonjour !
Au revoir !
Et merci !
Léa Nani et Julie Derriac, merci pour ce reportage. Est-ce que ça a changé votre façon de dire bonjour partout où vous allez maintenant ?
Complètement.
Pour de vrai ?
Là, en tout cas, à chaque fois qu'on va présenter le...
À chaque fois qu'on vient à la radio, en fait.
Oui, dès que quelqu'un nous tend la main pour nous dire bonjour, ça devient...
Ouais, ça devient intimidant de savoir sur quelle intonation on va le donner. Alors votre avis, pareil, Fabienne Chauvière, sur ce reportage.
Bon, encore une fois, je trouve que la forme est extraordinaire. Vous avez passé du temps, vous êtes amusé, vous avez bidouillé, vous avez dû vous éclater, non ?
Ouais.
Oui.
On a l'impression...
Presque un peu trop, je trouve.
Une pointe de reproche.
Oui, presque un petit peu gadget, je trouve, et que ça perd de son... Bon, on s'intéresse plus à la forme qu'au fond.
Ouais.
Donc là, ça devient presque un peu dommage. Mais ça s'écoute, c'est un bonheur. Elles ont des très belles voix, en plus, ouais. Je trouve.
C'est un sujet qui le permet d'être léger, parce que c'est vrai que le sujet est assez amusant. Je crois d'ailleurs que vous l'aviez traité, Fabienne Chauvière, ouais, dans une de vos chroniques.
J'ai fait une petite brève un jour sur le sujet, mais moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il vaut mieux dire bonjour en souriant, parce que ça s'entend, même à la radio. Si vous me dites bonjour comme ça ou bonjour comme ça, bah, c'est pas du tout le même son et vous avez dû le remarquer aussi.
Ouais. Jacques Florentin, un avis sur ce reportage ? Alors c'est moins votre domaine là. Hein.
Oui, là c'est moins mon domaine, mais en fait il faudrait se poser la question sur les bonjours dans toutes les langues, en chinois, en arabe, en russe, pour voir
pharmacien.
Un petit peu si ça apporte quelque chose, si c'est étudié aussi.
Oui.
Mais c'est vrai que dans n'importe quel... relations, que ce soit au niveau des enseignements, que ce soit au niveau des contacts patients, la pharmacie, etc. Le bonjour est important et je crois que le sourire est encore plus important.
Ouais. Alors Léa Nani, Julie Derriac et puis Corentin Duval, est-ce que cette expérience aura une suite pour vous ? Est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans le journalisme scientifique, dans la radio ? C'est quoi l'après ?
Le journalisme scientifique, oui, puisque de toute façon on y est déjà. On est déjà en alternance dans d'autres structures.
Et la radio ?
Et pour la radio, bah pourquoi pas ? Après, voir les opportunités.
D'accord.
D'après Fabienne, c'est la voix qui marche pour toi.
Ok.
Et Corentin ?
Moi, je vais sans doute continuer dans une boîte de production, donc de programmes scientifiques et pour l'audiovisuel. Donc, voilà.
Très bien. Et vous ?
Moi, je me dirige vers l'enseignement, donc je vais donner de ma voix, mais au tout petit.
D'accord, oui. Donc finalement, ça n'aurait été qu'une parenthèse, cette formation en vulgarisation scientifique, et puis vous retournez à vos premiers amours, je crois, qui étaient l'enseignement.
Ouais.
Oui, d'accord. Donc vous n'y avez pas pris goût à ce point, à la radio.
Bah, en fait, si, mais bon, peut-être mais que j'y reviendrai, en fait.
On ne sait jamais.
Puis ça va se croiser, peut-être aussi.
Ouais. Ou alors pour faire des ateliers radio avec les élèves. Axel, qu'est-ce que vous garderez de cette expérience ? Vous les avez accompagnés, ces étudiants. Alors, on ne les a pas tous vus. On a eu ceux avec qui ça avait le mieux marché, dont le résultat était le plus probant. Qu'est-ce que vous gardez comme conclusion de cette expérience ?
La diversité des formes. Et Fabienne l'a plusieurs fois soulevé. On l'a vu depuis 3 semaines, on a des formes qui sont à chaque fois complètement différentes. C'est peut-être parce que aussi je les ai laissés faire beaucoup s'amuser, comme tu disais avec le son, mais je pense que pour aimer le son, il faut commencer par s'amuser avec. Donc peut-être que j'ai fait passer les sujets derrière la forme pour certains, mais je pense que ça leur a permis aussi de découvrir qu'avec du son, à l'ère de la vidéo sur Internet, avec du son, on peut faire aussi beaucoup de choses et beaucoup s'amuser.
Est-ce que leur rapport à la radio vous a surpris aussi, Axel ? Parce qu'on s'en est rendu compte, hein, j'ai posé la question à chaque fois, là on a eu les 6 étudiants, même les 7 qui sont venus, à chaque fois la radio, pour la plupart d'entre eux, c'est un média qu'ils n'écoutent plus ou qu'ils écoutent très peu.
Alors c'est soit du podcast, soit pas du tout de radio, en tout cas de la radio en direct beaucoup moins, en tout cas l'essentiel de la promotion qui était de 15 personnes, donc c'est pas représentatif comme échantillon, mais c'est vrai que les habitudes d'internet ou des digital natives, on peut peut-être le dire comme ça maintenant, c'est aller picorer, consommer ce qu'on a envie et puis essayer de de faire à son choix.
Merci et bravo Léa Nani, Julie Derriac et Corentin Duval. Fabienne Chauvière, on vous écoute tout l'été sur France Inter le samedi et le dimanche à 17h ou dès à présent en podcast. On vous lit aussi hein,
oui,
sur la
plage.
Oui,
parce que si on ne peut pas écouter, il y a le livre qui est paru chez Flammarion. C'est une coédition France Inter, les grandes épopées qui ont fait la science.
Voilà, Axel Villard, vous serez là à la rentrée pour la nouvelle une de la science. Et merci Jacques Florentin, l'exposition L'Odyssée des épices au château de la Roche-Jagut. La tête au carré se termine pour laisser place à la grille d'été, mais vous aurez le plaisir de retrouver Mathieu Vidard à la rentrée aux commandes de l'émission. Et moi, je vous donne rendez-vous dès lundi à 16h. Le temps d'un bivouac reprend la route pour un nouvel été placé sous le signe de la découverte, du voyage et de l'aventure. Je passe vous prendre lundi à 16h.